Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études venue du monde entier. Et puis, notre bibliothécaire Alexandra Paget qui reviendra sur le 100e anniversaire de l'invasion de la Roure. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. C'est à la grande histoire des impôts que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Quand ont-ils été inventés? Pourquoi ils n'ont cessé de se multiplier, de s'adapter en permanence à l'ère de leur temps? Ont-ils toujours été détestés? Pourquoi ils sont indissociables de la construction de l'État? Et puis pourquoi et comment aussi essaie-t-on de leur échapper avec des pratiques plus ou moins légales et avec quelles sanctions à la clé? Réponse avec nos deux invités. Renaud Van Ruymbeek, bonjour.
Bonjour.
Renaud Van Ruymbeek, vous avez été pendant 20 ans juge d'instruction, vous avez traité certaines des plus grandes affaires financières de ces dernières années. On cite l'affaire Elf, les frégates de Taïwan, et vous publiez Offshore aux éditions Les Liens qui Libèrent, Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Et puis Eric Anceau, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire contemporaine à Sorbonne Université et vous publiez avec Jean-Luc Bordron Histoire mondiale des impôts, un titre ambitieux aux éditions Passé Composé. On démarre avec vous, Eric Anceau. Et qu'est-ce que j'apprends dans votre livre? Que le groupe ABBA aurait porté des tenues excentriques à paillettes pour des raisons fiscales.
Et oui, l'impôt, le fisc sont décidément partout. En 1974, lorsque le groupe ABBA se présente en fait à l'Eurovision, ouais. On le sait depuis peu parce que l'un des deux chanteurs du groupe l'a dévoilé à un journal anglais il y a quelque temps, ouais. Eh bien, ils ont revêtu ces fameuses tenues excentriques, car il se trouve qu'en Suède, lorsque vous portiez une tenue une seule fois, vous étiez exempté de paiement d'impôt sur ces tenues. D'où ces pattes d'ève, ces paillettes, des tenues d'ABBA en 1974.
Bon, Eric, quand commence la grande histoire de l'impôt?
Alors, on peut faire remonter l'impôt à 5000 ans, c'est-à-dire à la naissance des premiers États. Ouais. Les cités sumériennes, par exemple, en Mésopotamie, ou bien encore l'Égypte pharaonique, ou bien encore le Péloponnèse des Mycéniens. Eh bien, là commence à naître l'impôt.
Alors, est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est ambitieux ce que je vous demande, parce que c'est l'objet du livre, mais est-ce qu'on peut faire une espèce de fresque historique sur, est-ce qu'il y a des grandes séquences, quand même, avec des moments de rupture qu'on peut comme ça décrire?
Oui, disons que l'impôt, à l'origine, c'est un tribut qu'on prélève sur les peuples qu'on a vaincus. L'impôt est très lié à la guerre, parce qu'il faut avoir des armées qui se tiennent, il faut construire des murailles pour protéger sa cité. Donc, c'est les premiers motifs, je dirais, de l'imposition. Alors, en Occident, cette imposition va régresser à partir du moment où l'Empire romain va s'effondrer, au 5e siècle après Jésus-Christ. Ouais. Par contre, il va perdurer en Orient, dans des pays comme la Chine, comme l'Empire perse. Et puis, il va renaître avec l'affirmation des États dits modernes et contemporains. On pense au Royaume d'Angleterre, on pense au Royaume de France, au 12e, 13e siècle, avec l'apparition d'impôts comme la gabelle, comme la taille. Et puis, bien évidemment, une montée en puissance phénoménale au 19e et au 20e siècle. Pour vous donner une idée de cette montée en puissance, les impôts représentent 10% du PIB dans un pays comme la France à la veille de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18. Ouais. Et aujourd'hui, alors il est vrai que la France n'est pas forcément un modèle, mais ça représente 43,5% du PIB.
Donc ce que vous dites, c'est que, alors peut-être j'exagère, je caricature un peu trop, il y a eu une relative stabilité dans l'histoire des taux d'imposition, et c'est vraiment au 19e que la pression fiscale augmente considérablement.
Oui, il y a eu des hauts et des bas, davantage je dirais qu'une stabilité, ouais. Ça a dépendu des règles, souverains, ça a dépendu de beaucoup de choses. On y reviendra tout à l'heure, des révoltes populaires également peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à partir du 19e siècle, on a un État qui a de nouveaux besoins. Parce que l'État va prendre en charge, c'est un phénomène que j'évoque dans un autre livre, la laïcisation et la sécularisation, va prendre en charge l'école, qui jusque-là relevait de l'Église, et ça crée de nouveaux besoins, va prendre en charge la santé, puis vous avez toutes les infrastructures, avec le développement des routes, avec le développement des chemins de fer. Tout ça coûte extrêmement cher, bien évidemment. Donc c'est l'impôt qui finance.
Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, quel est le rapport des grandes religions avec l'impôt? Que disent les grandes religions sur l'impôt?
Alors, dans tous les livres sacrés, l'impôt est évoqué. Ça, c'est fascinant. Les livres sacrés, ils remontent, pour certains d'entre eux, à plusieurs millénaires. Prenons la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'impôt est indiqué. La preuve, c'est que les Juifs vont demander, en fait, à Jésus ce qu'ils doivent faire. Les Juifs, à l'époque, sont dominés par les Romains. À qui doivent-ils acquitter les impôts? Au temple ou bien aux occupants, c'est-à-dire aux Romains. Et vous savez tous, la formule est célèbre, Jésus a cette réponse, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si on se tourne un peu plus tard vers le Coran évoque également beaucoup les phénomènes de contribution, et dans les cinq piliers de la foi, le troisième d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, qui est une forme d'imposition.
Eh oui. Les questions fiscales, est-ce que ce sont des questions techniques ou est-ce que ce sont des questions philosophiques? Quand vous prenez par exemple le débat impôt proportionnel, donc le même taux pour tout le monde, impôt progressif, c'est-à-dire on vous impose plus sur les derniers euros gagnés que sur les premiers, le débat impôt direct ou indirect, le débat beaucoup de petits impôts ou quelques grands impôts, est-ce que c'est des choix philosophiques ou est-ce que c'est des choix techniques?
Ah ben c'est les deux. L'impôt, c'est partout, et chacun y trouve son compte, ou bien dans une dialectique et un affrontement politique, eh bien va utiliser des arguments tantôt politiques, tantôt techniques, tantôt philosophiques. Vous évoquez le principe de l'impôt proportionnel ou de l'impôt progressif. C'est un débat extrêmement structurant du 19e et du 1er 20e siècle, dans un pays comme la France, et la question du choix entre impôt direct et indirect aussi. Les révolutionnaires vont supprimer les impôts indirects, parce qu'ils étaient honnis par le peuple sous l'Ancien Régime, et ils vont mettre en place quatre taxes, qu'on appelle d'ailleurs les contributions. Le terme est intéressant, on ne parle plus d'impôts, c'est l'idée que désormais les citoyens vont contribuer. Quelqu'un comme Adolphe Thiers, qui est un de nos grands hommes politiques du 19e siècle, disait « pas d'impôt direct comme l'impôt sur le revenu en France, c'est contraire à la civilisation ». Et nous sommes le peuple le plus civilisé, donc nous ne devons recourir qu'aux impôts indirects. Pourquoi? Parce que l'impôt direct nécessite une forme de déclaration de revenus et est donc très intrusive. Or, les Français, on le sait, aujourd'hui c'est le cas, mais c'était le cas jadis, refusent qu'on s'immisce un petit peu dans ces affaires particulières. Donc Thiers, il avait bien saisi ça et il disait non, surtout pas d'impôt sur le revenu.
Est-ce qu'on a su, au fil des siècles, mieux appréhender les bases fiscales? On a su taxer, vous le dites dans votre livre, en gros, il y a clair qu'on taxe pas aujourd'hui.
Exactement. Jadis aussi.
Pas encore.
Mais
c'est souhaitable.
Jadis déjà, on taxe les lèvres, puisque vous avez en Angleterre au XVIIe siècle un impôt sur les fenêtres. Et j'évoquais tout à l'heure nos quatre contributions révolutionnaires. Et copié sur les Anglais, vous avez un impôt sur les portes et fenêtres. Donc même l'air, même la lumière sont taxés. Non, mais ce qui est vrai, c'est, et je reviens à mon cher 19e siècle, je suis 19e-iste à la base, avec les progrès de la statistique, avec les recensements de population, on connaît davantage la population qu'on va pouvoir taxer, l'assiette fiscale, véritablement à partir du 19e siècle. Vous avez des manuels de fiscalité qui apparaissent à cette époque-là et qui sont extrêmement perfectionnés.
Comment a évolué le rapport du contribuable à l'impôt, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt?
Alors, des révoltes, il y en a toujours eu. Les gilets jaunes récemment, mais je pourrais remonter à la plus haute antiquité, vous en avez eu. Et dès l'Antiquité et le Moyen-Âge, vous avez des souverains, des empereurs et des rois qui se disent qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à une forme de consentement. Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, prendra un édit qu'on appelle l'édit de Pistre en 864, dans lequel le mot consentement est évoqué. Nos rois, au XIIIe et XIVe siècle, mettent en place les états généraux, Philippe le Bel pour la première fois en 1302, pour demander aux trois ordres, lorsqu'un nouvel impôt est créé, une forme de consentement. Mais ne nous leurrons pas, c'est à partir de l'époque moderne, XVIIe, XVIIIe siècle, qu'en Angleterre, aux États-Unis et avec la Révolution française, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, imaginez que 2 de ces articles sur 17 évoquent l'impôt, qu'on en arrive véritablement au consentement, puisque désormais vous avez des représentants élus du peuple qui vont voter l'annualité de l'impôt.
On est en pleine mutation économique, Eric Anceau, mutation technologique. On est confronté à des défis comme la transition environnementale et énergétique, comme la révolution digitale. Comment l'impôt va s'adapter à tout ça? Comment on va faire, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, pour taxer tout ce qui est immatériel? Quels nouveaux impôts il va falloir inventer au XXIe siècle? Il va falloir abandonner.
Je laisse au législateur le soin de nous inventer.
Il n'est jamais
des
en panne d'imagination.
Et moi, je soigne beaucoup ma popularité, vous savez, donc je ne vais pas lui suggérer à ce législateur des choses. Ouais. Ce que je dirais, c'est qu'on a
les grands principes de l'évolution de la fiscalité de demain.
460 impôts aujourd'hui taxes, et il est très très rare qu'on vienne en arrière. Il y a quand même, on peut le dire, la vignette, par exemple, la vignette qui a été créée en 56 et qui a disparu au début des années 2000. Mais c'est bien le contre-exemple. Non, les impôts ont tendance à s'empiler les uns les autres. Vous évoquiez les questions d'environnement ou les questions de santé. On voit mais que le législateur se fait moralisateur également.
Parce que c'est le principal outil de la politique économique aujourd'hui. C'est le principal outil d'incitation au changement de comportement.
Bien évidemment. Mais vous savez, l'impôt, c'est fondamental parce que ça, vous qui êtes spécialiste de l'économie, je ne vais pas vous l'apprendre. On utilise également l'impôt comme un outil également macroéconomique, de manière à inverser les cycles. Donc, l'impôt, c'est fondamental. Question de consentement. On a besoin d'argent. Et puis également, vous l'avez dit, pour essayer de résoudre les problèmes d'environnement.
Alors, Renaud von Rumbeck, vous intéressez, vous avez pourchassé même, on peut le dire, ceux qui contournent finalement le paiement de l'impôt, et notamment à travers les paradis fiscaux. Alors, d'abord, vous avez un début de livre qui est très stimulant. Vous faites le rapport entre les Templiers et les GAFAM. Quel est ce rapport?
Philippe Lebel. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe le Bel? Il avait les Templiers qui étaient presque plus riches que lui. Il a confisqué les avoirs des Templiers. Aujourd'hui, les États sont archi-endettés. Il y a des milliards qui sont fraudés dans les paradis fiscaux. Ouais. Donc, pourquoi les États ne feraient pas, comme Philippe le Bel, prendre cet argent? À la différence près, c'est que, quand même, on est des États de droit aujourd'hui. Et à l'époque de Philippe le Bel, on a fait des procès en sorcellerie, etc. Je vous passe l'Inquisition, etc. C'est absolument épouvantable. Aujourd'hui, on peut pourchasser, c'est votre terme, c'est pas le mien. On peut essayer d'identifier ceux qui fraudent l'impôt et appliquer des sanctions à ceux qui ont recours à ces paradis fiscaux où jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la punité.
Alors, expliquez-nous la part, leur rôle, que j'ai envie de qualifier de stratégique, dans le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui, aux paradis fiscaux.
C'est-à-dire que ce sont des gens, ou des grandes sociétés, des multinationales, qui gagnent beaucoup d'argent et qui payent pas d'impôts. Fondamentalement, c'est ça. Alors, pour pas payer d'impôts, ils jouent sur les frontières. C'est-à-dire qu'ils vont créer, effectivement, une société mère aux Bahamas, à l'île d'Oman. Ils vont faire remonter les bénéfices dans des pays où on paye pas d'impôts. Aujourd'hui, l'Eldorado, c'est Dubaï. Je vais vous surprendre. C'est Dubaï.
Ouais.
Et d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui les fameux oligarques russes dont on prétend saisir les avoirs, dont on saisit ce qui est visible, les yachts, les villas, mais l'essentiel de l'argent, il est ailleurs. Ils sont à Chypre, ils sont à Dubaï. Bon, et ils sont bien tranquilles là-bas.
On fait toujours, Renaud van Rumbeck, la différence entre ce qui relève de l'optimisation fiscale et ce qui relève de la fraude fiscale. C'est-à-dire ce qui relève de l'utilisation la plus agressive, on a envie de dire, des règles qui existent, et la véritable fraude. Mais quand on vous lit, on se dit quand même, le juge van Rumbeck, pour lui, l'optimisation fiscale, c'est déjà un peu de la fraude.
Ouais, ça, je peux rien vous cacher. Ouais. Mais quelqu'un qui oublie de déclarer 1000 euros sur sa feuille d'impôt, c'est un oubli, certes, le plus souvent intentionnel, d'accord. On va lui dire c'est de la fraude fiscale. La multinationale, qui va avoir une armée de conseillers juridiques et fiscaux, qui va organiser des conventions intra-groupes artificielles pour payer des impôts ou ne pas en payer à l'île de Man, on va lui dire c'est de l'évasion fiscale, c'est légal. On connaissait que c'est pas très équitable. Et je considère personnellement, mais la jurisprudence commence à le faire aussi, et ça je le dis à tous ceux qui nous écoutent, qui pensent qui se défendent en disant c'est de l'évasion fiscale. Attention, la jurisprudence commence à considérer que c'est de la fraude fiscale. Donc ils seront rattrapés un jour.
On considère être de l'optimisation. C'est-à-dire profiter des règles...
Bah, pas payer d'impôts, tout faire pour éluder payer, l'impôt, pas, oui, se soustraire à l'impôt.
Oui, mais sans que ce soit dans l'illégalité. Et vous dites ça, ça va changer.
Oui, c'est en train de changer parce que les juges maintenant, Bercy, etc., commencent à s'intéresser à ces conventions intra-groupes qui font remonter les bénéfices du pays où on travaille, par exemple la France, vers un pays fictif, les îles Caïmans, sous couvert de conventions de, internes au groupe qui font remonter ces bénéfices. Et là, on commence à démonter ça et à se dire... Ça demande du travail. Attention, c'est compliqué, mais on commence à se dire, attention, tout ça c'est artificiel, ce sont des manœuvres, on n'est pas loin de l'escroquerie pour moi, et de la fraude fiscale.
Renaud Van Rijnbeeck, on a l'impression quand même que... Enfin, moi j'avais l'impression que quand même, il y avait des efforts qui avaient été faits ces dernières années dans la lutte contre ces paradis fiscaux, et qu'il y avait eu certains progrès qui avaient été faits sous l'égide de l'OCDE notamment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui, ça a progressé?
Non. Je pense pas. Gabriel Zucman a cité le chiffre de 8000 milliards de fraudes qui sont fraudées ou évasions, etc., ouais, qui se baladent dans les paradis fiscaux. Ils sont supprimés, les paradis fiscaux?
Bah, là, il y avait des listes qui avaient été...
Oui, bah, les listes, attendez, regardez qui a dans les listes. Quand on passe de la liste blanche à la liste grise, vous signez une convention, une ou deux conventions internationales. Après, vous asseyez dessus, vous sortez de la liste noire pour aller dans la liste grise.
C'est du fiscal washing, quoi.
Oui, il y a de la bonne volonté derrière, c'est pas ce que je veux dire. L'OCDE a quand même fait un travail important, etc. Mais on sait pas, on n'a jamais attaqué les vrais outils, c'est-à-dire les trusts, les sociétés offshore, les fiduciaires, voilà, toute l'ingénierie, les elle trusts, est toujours là.
Est-ce que vous pouvez simplement, rapidement, les mécanismes qui
vous
sont...
Vous avez 100 millions d'euros de patrimoine.
Ouais.
Vous allez un jour décider de les léguer à une entité qui s'appelle un trust.
Ouais.
Voilà. Vous continuerez à en bénéficier, mais juridiquement, dans le droit anglo-saxon, vous n'en serez plus propriétaire.
Ouais.
Donc, vous déclarez plus des impôts à titre personnel. Si des créanciers ou d'autres vous poursuivent, ou la justice vous poursuit, vous direz, l'argent, il est dans un trust, il est dans une entité à part, il n'est pas à moi. Si c'est pas un instrument de fraude, qu'est-ce que c'est? Alors, on vient vous répondre, c'est pour des successions, on y met des œuvres d'art. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne subit pas la règle commune des successions.
Est-ce que... alors, d'abord, pour vous, il y a combien de paradis fiscaux aujourd'hui? C'est quoi les plus grands paradis fiscaux? Et est-ce qu'ils ont tous... Comment on devient un paradis fiscal? C'est quoi l'histoire d'un paradis fiscal?
Par opportunisme. Par opportunisme.
Ouais.
Au début, il y avait...
Mais quel est le point commun entre... Parce que vous dites, moi, j'étais frappé de voir... En fait, il y a plusieurs logiques. Il y a ce que j'appellerais la logique des îles et la logique des capitales, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça.
Il y a Londres, il y a...
La Suisse, le Luxembourg, Singapour. Voilà. Et à côté de ça, vous avez des îles de pacotille. Alors, tout ça, c'est complémentaire. Prenez les...
Ah, c'est complémentaire.
Oui,
c'est-à-dire... Les paradis fiscaux sont pas forcément concurrents.
Les gros le sont entre eux, et les îles de pacotille le sont entre elles. Mais... Vous êtes la Suisse, vous organisez une fraude fiscale, vous avez besoin de sociétés offshore. Donc vous allez acheter une société au Panama. Donc ces îles vont vous fournir des sociétés bidons, appelons les choses qui sont des sociétés écrans, que vont utiliser les grands fraudeurs qui, eux, se sont traités par ces capitales, comme vous dites, de la fraude fiscale. Donc il y a une complémentarité. Ils achètent ces sociétés offshore. On achète une société des BVI, on achète une société panaméenne. 20 000 dollars, peut-être 20 000 euros, vous avez une société panaméenne et vous allez ensuite dans les capitales, vous avez un gérant qui va vous ouvrir des comptes, non pas à votre nom, mais au nom de ces sociétés offshore dont vous êtes le bénéficiaire.
Alors, on a parlé des structures, et puis ce qui est fascinant aussi, c'est tous les acteurs. Hein, oui. Tout le monde,
c'est un monde
qui gravite autour de ces paradis fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous brosser quelques portraits de gens qui sont des chevilles ouvrières cruciales dans ces mécanismes des paradis fiscaux?
Les fiduciaires, vous les avez en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, maintenant elles se développent aussi.
C'est quoi les fiduciaires?
C'est des sociétés de conseil qui vont gérer vos fonds avec un secret bancaire. Voilà, en gros, avec un secret
confessionnel. Et compagnons sur eux.
Bien sûr, bien sûr. Mais qui n'ont pas qu'une activité... je vois pas le mal partout. Hein, je vois que vous me regardez, l'air de dire, ils voient le mal partout.
Non, mais je cherche à comprendre.
Mais une fiduciaire va gérer 90% de capitaux qui payent leurs impôts, normalement, et puis peut-être 5 ou 10%.
Mais un jour, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on a un bon client, puis on va lui dire...
Attendez, quand vous avez un dictateur...
Oui, voilà.
Vous avez un dictateur qui a 3 milliards.
de dollars, qui vient vous dire, vous pouvez me les placer, vous pouvez me les gérer, etc. 3 milliards sur un seul client, vous êtes banquier, vous allez quand même réfléchir à deux fois avant de lui mettre d'or. Bon, donc on va trouver des solutions qui vont préserver les apparences, c'est-à-dire qu'on aura rempli tous les papiers, etc. Mais comme il y aura des prête-noms, des sociétés offshore, des montages très compliqués, on verra pas que c'est le dictateur. Donc il y a une ingénierie qui est fournie par ces gérants de fortune, par ces fiduciaires. Ce sont celles qui sont à la tête de ces organisations.
Concrètement, les clients, entre guillemets, des paradis fiscaux, bon, il y a les petites fortunes un peu malhonnêtes.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
J'allais dire, il y a ça.
Il y a l'évasion fiscale, la fraude fiscale, ok. Allez. Mais vous avez aussi des escrocs.
Ouais.
Vous avez aussi des corrompus.
Ouais.
Vous avez des trafiquants de drogue.
Oui, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. Il y a toutes les mafias aussi.
Mais moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé.
Ouais.
J'ai pas travaillé sur la fraude fiscale proprement,
oui.
À part les escroqueries à la TVA et à la taxe carbone, qui là sont des escroqueries, mais c'est en instruisant ces affaires-là que je me suis aperçu qu'il y avait des outils qui en réalité étaient banalisés parce qu'ils étaient utilisés par beaucoup d'acteurs de notre vie économique.
Et vous vous dites, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Ça évolue tout doucement, ouais. Mais c'est comme le climat. Vous avez vu, on n'a jamais émis autant de carbone que l'année dernière. Et pourtant, on est à la COP27. Bon, bah là, c'est un peu pareil.
Mais, quand on vous lit, on se dit quand même, est-ce que le combat des juges, il est pas perdu d'avance, quoi?
Non, c'est jamais perdu. Est-ce que vous pensez que les combats de Don Quichotte étaient perdus d'avance? Moi, je suis convaincu que non. Donc, voyez, c'est ce qui nous sépare.
Laissez-moi exprimer quand même une grande inquiétude vu la santé mentale de Don Quichotte. Mais est-ce qu'on pourra arriver? Mais la question, c'est même, est-ce que il y a pas trop de gens qui ont intérêt à ce que finalement ça continue comme ça?
Bien sûr. Mais c'est tout le problème. Mais est-ce que c'est tolérable? Est-ce qu'il est acceptable que ceux qui gagnent le plus payent pas d'impôts, alors que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un impôt qui existe théoriquement pour tout le monde? C'est pas acceptable. Le citoyen qui a accepté ce sport national qui a existé pendant des années, je pense pas qu'aujourd'hui il accepte ça. L'impôt finance quand même les hôpitaux. Vous allez à l'hôpital, c'est gratuit. Mais il faut de l'argent.
Oui,
pour
mais
ça.
Il y a une forme de schizophrénie, puisque vous voyez aussi que au sein de l'Europe, quand même, on a des vrais paradis fiscaux, alors on peut essayer de se montrer vertueux, mais quand vous avez le Luxembourg à l'intérieur, très bien. Quand aux États-Unis, vous avez le Delaware, qui est aussi un paradis fiscal.
Mais est-ce qu'il faut rien faire pour autant?
Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette schizophrénie qui, finalement, fait que on se dit, est-ce que les grands dirigeants de ce monde, ils ont finalement envie que ça avance, quoi?
Ils en auront envie le jour où le citoyen aura conscience de tout cela. C'est pour ça que j'écris ce livre. C'est une prise de conscience, parce que les gens savent que ça existe quelque part, mais c'est indolore, inodore. Le jour où on en discutera, on en parlera dans les élections. C'est jamais un thème dans les élections. Le jour où on en parlera sérieusement, on le mettra en première ligne avec comme l'environnement, comme tout ça. Ce jour-là, les politiques réagiront.
Oui, mais parce que en gros, à chaque campagne électorale, tous les 5 ans, on voit revenir ce fameux chiffre que on va lutter contre la fraude fiscale.
Oui, on va.
Qui va ramener 80 milliards d'euros à peu près.
Oui, on va.
Et on s'arrête là, quoi.
Oui. En tant que praticien, parce que je ne suis qu'un praticien. J'ai pas la prétention de dire il faut faire ci, faire ça, je n'en sais rien. J'ai constaté et je constate cette injustice fondamentale. C'est ça que je veux dénoncer.
Mais est-ce que on n'est pas quand même à l'aube d'une nouvelle ère avec tous les outils technologiques qui quand même aujourd'hui ont déjà montré leur efficacité? Vous parliez tout à l'heure des carrousels de TVA en Europe. Je veux dire, les outils technologiques et informatiques ont permis quand même ont été quand même très efficaces pour démanteler tous ces réseaux.
En tout cas, ils les utilisent pour faire circuler l'argent très vite d'une place à l'autre.
Les administrations publiques ont aussi utilisé ces outils pour identifier.
D'accord, mais vous, à Dubaï, ils ont accès à Dubaï, aux informations à Dubaï? Ouais. Ils n'ont pas accès. Donc c'est facile. Au sein des États, on est hyper réglementé, même peut-être trop réglementé. Par contre, dès qu'on passe les frontières, on n'a plus de pouvoir. Et il suffit de tomber sur un trou noir et c'est fini. On peut clore l'enquête.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, dès qu'il y a un maillon qui manque.
Bah oui, parce que c'est une chaîne.
Ouais.
Et moi, si je suis une fiduciaire un petit peu avisée ou avec un petit peu d'expérience, je vais vous faire un circuit où jamais personne ne pourra s'y retrouver.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette plongée fascinante dans l'univers de nos impôts. Je rappelle vos deux livres, Histoire mondiale des impôts par Éric Anceau et Jean-Luc Bordron, de l'Antiquité à nos jours. Évidemment, cette histoire, c'est aux éditions Passé Composé. Et puis, le dernier guide du juge Van Ruynbeck pour échapper aux impôts et utiliser les paradis fiscaux. non, je rigole, mais on apprend énormément de choses sur le fonctionnement de ces paradis fiscaux. Ça s'appelle. Et puis alors, surtout, je tiens à le souligner, c'est vraiment lisible par tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas jargonnant, on arrive à s'y retrouver
assez
facilement.
C'est pas un que sais-je.
Voilà, c'est ça. C'est pas un que sais-je ça se lit presque comme un roman, j'ai envie de dire.
C'est une expérience.
Mais malheureusement, c'est la réalité. Ouais. Voilà, Renaud Van Ruynbeck, Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget, avec qui nous reviendrons sur le 100e anniversaire de l'invasion de la Roure. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitrée de la Société d'économie politique, où Jean-Marc a son fan club absolu d'économistes qui viennent se pâmer devant ses analyses et ses comptes rendus de livres.
N'exagérons rien, mais enfin, j'assure.
Voilà, il assure, Jean-Marc, comme vous assurez la librairie de l'écho. On commence avec le choix de Christian Chavagneux, Le mythe de l'entrepreneur par Anthony Galuzzo, c'est aux éditions Zone.
Oui, alors là, on a cette image de l'entrepreneur, du grand entrepreneur, celui qui réussit comme un individu, hein, c'est lui tout seul qui est prophétique, qui est disruptif, qui est un génie.
En fait. C'est Steve Jobs qui est en couverture, d'ailleurs.
Alors, voilà, c'est Steve Jobs qui est en couverture et qui occupe toute la première partie du livre. Ce que l'auteur veut faire, c'est un peu dénoncer ce mythe de l'entrepreneuriat, ce mythe de l'entrepreneur individuel. Ouais. Et d'ailleurs, les entrepreneurs eux-mêmes, avec leur storytelling, nourrissent ce mythe. Alors, regardez, par exemple, on nous dit Steve Jobs, le gars qui démarre tout seul.
Dans son garage.
Bon, déjà, quand on a un tout petit peu Apple, on sait qu'ils sont deux Steve, hein, Steve Jobs et Steve Wozniak, déjà. Ouais. Bon, ils sont deux, pas tout seul. Leurs parents sont déjà dans la tech, dans l'informatique, ils ont une culture, ils ont un patrimoine culturel. Ouais. Familial qui est déjà dans la technique. Derrière, Wozniak, en fait, il travaille chez HP et le soir, il travaille sur son petit projet en utilisant toute l'infrastructure de HP. Puis, il y a une sorte de groupe de fanat de l'informatique. Il vient présenter ce qui va devenir le premier Apple et c'est de la discussion collective que tout ça va s'améliorer et va devenir le premier. Mais même quand ils ont leur premier ordinateur, ils n'ont rien du tout. Et ils trouvent un gars dont on n'entend absolument jamais parler, qui est un financier, qui est un gars qui va jouer un rôle clé dans beaucoup de start-up qui vont devenir très importante financière ou pas dans la Silicon Valley, qui est Mike Markula, qui va apporter tous les financements, la structuration de l'entreprise pour en faire vraiment quelque chose qui va pouvoir devenir Apple. On invisibilise beaucoup des raisons du succès. Le patrimoine familial, les financiers, l'État, ils sont en pleine période de commandes publiques, les brevets, toute la technologie qu'ils vont pouvoir, une partie de la technologie qu'ils vont pouvoir utiliser vient de la commande publique étatique. Bill Gates avait dit à un moment donné, je suis né à la bonne période, vous me mettez en plein milieu de l'Afrique, j'aurais rien fait. Ils sont tous nés, tous ces grands entrepreneurs, un peu après les années 50, qui est la super période en fait pour être un entrepreneur dans la tech. Les ouvriers complètement invisibilisés, n'oublions pas les camps de travail de Foxconn qui contribuent aussi au succès d'Apple. Bref, toute la première partie du livre essaie de rendre visibles toutes les parties invisibles qui sont liées autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est nouveau? Non, nous dit l'auteur. Regardez, à la fin du 19e, en fait, c'est au moment de Darwin que le capitalisme américain commence à construire ce mythe de l'entrepreneur en disant l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui, dans la jungle capitaliste, est le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, etc. Dès la fin du 19e, dès le début 20e, il y a les fameux Nutcrackers. On a parlé d'Ida Tarbell et de Rockefeller il y a quelques temps avec Jean-Marc. Ces journalistes d'investigation qui vont montrer qu'il y a la politique d'accaparement, qu'il y a de la politique de sabotage des concurrents, la sabotage de l'État. C'est comme ça aussi qu'ils vont réussir jusqu'à la fameuse expression de baron voleur. Enfin, l'auteur à la fin nous dit, est-ce que c'est typique d'une économie libérale, le fait de glorifier ses entrepreneurs? Il dit, pas du tout. Même dans les périodes non libérales, on glorifie les entrepreneurs, c'est juste que les gens aiment bien glorifier les grands hommes. de la politique, du business, de la chanson.
Peut-être bâtir une légende et puis un peu de mégalomanie aussi à part
de la part d'eux-mêmes qui nourrissent le storytelling. Voilà. Donc voilà, on décrypte un peu ce mythe de l'entrepreneur. Je trouvais c'est très fluide, très bien écrit. Je trouvais le bouquin passionnant.
Jean-Marc Daniel.
Oui, le bouquin a beaucoup d'intérêt et puis il y a des éléments qui m'ont un peu agacé. Alors la partie que décrit Christian, qui est la partie du début, les deux premiers chapitres sur Steve Jobs, cette partie-là est vraiment passionnante. Et en plus, effectivement, Steve Jobs, c'est même pas l'ingénieur de la du couple, c'est lui, c'est le commercial. Et il montre bien le film avec Ridley Scott sur 1984. En fait, toute la communication, la stratégie de communication, et surtout, alors c'est plutôt adressé à votre profession, la complicité comme milieu utile des journalistes qui se laissent totalement impressionner par tous ces gens. Et il dit, et alors effectivement, il dit Napoléon Bonaparte, c'était la même chose. Il y avait un art du communiquer après la victoire, donc tout ça. Et il va même un peu plus loin. Il dit alors il parle pas de destruction créatrice, il parle de création destructrice. Pour traduire l'expression de Schumpeter. Et il dit, en fait, toutes ces théories qui ont magnifié ces entrepreneurs sont des théories qui sont dans l'air du temps depuis la fin du 19e siècle, qui correspondent assez bien à la philosophie allemande, notamment aux travaux de Sombart, qui était un économiste et un sociologue de référence. Et il dit, en fait, Schumpeter a assez peu apporté de choses, même lui, à côté imposteur, la grande force de Schumpeter, c'est d'avoir traduit en anglais. Et donc, il était professeur à Harvard, et il a apporté à Harvard des théories qui étaient en Allemagne, mais toutes ces théories était dans une ambiance intellectuelle qui dominait
c'était
l'Allemagne.
C'était son côté journaliste aussi.
Oui, un peu. Mais alors après, bon, donc la partie historique, on recroise Rockefeller, comme l'a dit Christian. Bon, donc on commence à savoir sur Rockefeller. Hein. On pourrait faire tous les deux une thèse sur Rockefeller. On commence à connaître le personnage.
Mais c'est le riche parmi les riches.
Oui, absolument.
C'est la grande fortune de toutes les grandes fortunes.
Oui, absolument. Puis il y a Carnegie aussi, avec des citations de Carnegie. Franklin, il prend son Benjamin Franklin, prend sa paire de claques au passage. Mais ce que j'ai trouvé un peu désagréable, c'est le côté un peu post-sociologie de Bourdieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de mérite, on est prédéterminé, vous réussissez jamais que parce que vous êtes bien né, parce que vous êtes là au bon moment. Parce que il y a quand même des gens qui, à un moment donné, alors Steve Jobs, c'était pas un ingénieur, c'était un opportuniste, mais enfin, il a quand même eu
une forme de génie.
Et donc la contestation, alors c'est assez américain ça. Lui, il dit effectivement, finalement, Schumpeter, c'était jamais que des idées à la mode en Allemagne. Bon, là, c'est un peu des idées à la mode aux États-Unis. Maintenant, on n'a plus de mérite. La méritocratie, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Ça m'a un peu agacé.
Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. Le nouveau livre de François Mickey Marty aux éditions de l'Aube. Ça s'appelle « Les nouvelles fractures de l'humanité ».
Oui, alors c'est un livre ambitieux, érudit, et alors on disait que le livre précédent était passionnant. Lui, il est vraiment passionnant. Alors c'est un livre très très bien construit. L'homme en question, donc, c'est de dire que jusqu'au Moyen-Âge, ce qui était au centre, c'était les dieux, Dieu et tout ça. Et puis à partir de la Renaissance, on commence à voir apparaître une sorte de théorie de l'homme, de vision de l'homme, de constitution d'une société autour de la notion d'homme. Donc il dit bien d'ailleurs que dans son livre, il a utilisé homme en tant qu'être humain avec une majuscule et homme en tant qu'opposition à la femme avec une minuscule. Et donc il dit, donc il y a eu la Renaissance, il y a eu les Lumières, il y a eu l'arrivée avec la révolution industrielle de l'Homo economicus, et maintenant la révolution technologique va faire apparaître une nouvelle vision de l'homme. Et donc on rentre dans le transhumanisme, c'est-à-dire la Renaissance, les Lumières, c'était l'humanisme, là maintenant on est dans le transhumanisme. Alors, il y a tout un tas de considérations sur l'homme augmenté. Et alors, il dit ça va générer de nouveaux conflits, deux types de conflits. D'abord, l'homme technologique, l'homme tech, comme il dit, va avoir l'homo tech, qui remplace l'homo economicus, va avoir des rivaux, des concurrents. Il identifie six personnages, six types d'hommes qui vont être ses rivaux. Et puis, ça va faire des conflits géographiques. Il y a le lieu par excellence de l'homo tech, qui est la Californie, et le lieu par excellence de l'opposition qui va être la jeunesse africaine. Et donc il dit, il y a une espèce de conflit potentiel qui va se développer. Donc l'homothèque est à vocation à s'imposer, simplement il va se heurter, pour des raisons géographiques et des raisons de structure sociale, à tout un tas d'oppositions. Donc l'enjeu, c'est de donner à l'homothèque une légitimité suffisamment grande pour qu'il ne devienne pas soit le perdant de l'histoire, soit le monstre de l'histoire. Donc, il y a une analyse assez fine. Évidemment, il n'y a pas de conclusion pratique très immédiate, mais c'est une vision que j'ai trouvée assez originale, même si ça, le transhumanisme, alors il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités, donc il n'est pas forcément non plus dans une originalité totale, mais il y a une forte originalité malgré tout dans l'approche du problème.
Christian Chavagneux.
C'est un livre en trois parties en fait. Pourquoi on parle du transhumanisme? Parce que et pourquoi le transhumanisme fait autant parler de lui? Parce que c'est la réponse à notre crise existentielle. Et donc toute la première partie, c'est l'homme est en crise existentielle. Alors j'avoue que je vais rester diplomate. Cette première partie ne m'a pas convaincu, on va dire, pour le dire poliment. Pourquoi? Parce que cette crise existentielle, elle serait typique de notre période actuelle. Bah, lisez les bouquins de philo, y compris chez les Grecs et les Romains. Lisez le travail de Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire. La crise existentielle et comment on peut y répondre, c'est multimillénaire. C'est pas spécifique de notre période. Dans notre période, qu'est-ce qui pourrait la nourrir? Alors, d'abord, les sciences humaines. Alors, Pierre Bourdieu est devenu Michel Bourdieu. Je pense que l'auteur est pas très, très familier avec les sociologues et l'ensemble des sciences humaines. Mais pourquoi les sciences humaines sont destructrices et nous créent de l'angoisse, Emmanuel? Bah, c'est parce que la famille, le travail, la religion, tout ça, les sciences humaines, bah, essaye de les décrypter, de faire voir que derrière ces monuments sociaux, il y a peut-être des rapports de force. Ça, c'est pas bien, ça. En fait, vous voyez, si vous faites comprendre aux femmes qu'elles sont sous la domination masculine, vous cassez leur domaine de référence, vous leur créez une crise existentielle. Pas du tout. Les sciences humaines, ça sert à l'émancipation des gens. Ça crée pas de la crise existentielle. Donc là, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'auteur. Nous serions aujourd'hui multifacettes. On n'aime pas un personnage, on est multifacettes, mais moi, je me rappelle de Pirandello, 1 personne et 100 000, 1926, qui lui explique tous les problèmes que cause le multifacettisme de l'existence humaine. Et j'aurais pu sûrement retrouver plein d'exemples avant. Donc, c'est pas typique d'aujourd'hui non plus. Dernier problème qui nous crée une crise existentielle, nous n'avons pas d'ancrage territorial, nous n'avons pas d'ancrage local. Il faut se balader en France, aller dans le Grand Est. Vous avez une culture de l'Est, aller dans le Nord, les Ch'tis, c'est pas qu'un film. Aller chez les Bretons, aller chez les Basques, aller en Charente, aller en Corse. Justement, les populistes aujourd'hui s'appuient sur notre ancrage trop fort nationaliste et à l'intérieur de la nation sur notre ancrage local. Donc ça, cette démonstration-là, je l'ai pas du tout, elle m'a pas du tout convaincu. La deuxième partie, comme l'a dit Jean-Marc, c'est sur le transhumanisme. Il y a des gens qui disent que c'est bien, des gens qui disent que c'est pas bien. Au moins dans ce chapitre, vous avez le résumé des thèses des uns et des autres. Et comme l'a dit Jean-Marc, à la fin, l'auteur nous dit va y avoir plusieurs types de personnes. Alors, c'est marrant parce que dans la première partie, nous sommes multifacettes. Ouais. Mais dans la dernière, nous sommes que homo techno ou homo digitaliste ou les gens qui s'occupent de la terre ou les gens qui sont dans la spiritualité ou les gens qui cherchent de l'éducation et de la pensée critique. On est l'un et pas l'autre. Et donc, comme on est l'un et pas l'autre, comme il y a plusieurs galaxies, on rentre en conflit. Alors, si on ne peut pas être multifacette, on n'est pas multifacette. Donc voilà, je ne m'y retrouve pas dans le raisonnement, je ne m'y retrouve pas dans la logique du raisonnement, je ne m'y retrouve pas dans les démonstrations. Donc, je ne suis pas un grand fan de ce livre, on va dire.
Eh ben, on l'a remarqué. Oui. c'est dit, c'est clair pas au moins. Cas. C'est clair. Allez, on retrouve Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Alexandra.
Bonjour Emmanuel.
On célèbre un centenaire, enfin on s'intéresse à un centenaire aujourd'hui, celui de l'invasion de la Roure par les Français et les Belges. C'était très précisément le 11 janvier 1923.
Voilà, c'est là qu'on arrête notre chronographe aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer ensuite de quel livre on va parler, mais il faut d'abord que je
recontextualise. Quel suspense !
Voilà, c'est ça. Je vais essayer d'abord
de... Un auteur sulfureux, vous allez voir.
En plus, un auteur sulfureux. Donc, je recontextualise. Cette invasion de la Roure par les Français et les Belges, elle succède donc au traité de Versailles qui intervient en 1919. C'est l'objet du livre de l'auteur dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire Jacques Bainville, et le livre en question s'appelle Les conséquences politiques de la paix. Je vous rappelle le triple objectif défini par le traité de Versailles qui est assurer le désarmement et la démilitarisation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, aider au relèvement des pays européens et promouvoir entre tous ces pays une intime association de leur système économique afin d'assurer la paix et la prospérité et d'humilier l'Allemagne au passage. Mmh. Et l'invasion de la Roure par les Français et les Belges en 1923, elle intervient dans ce cadre-là en disant on va vous piquer votre outil industrielle. Ce qui, évidemment, pose un énorme problème à ce moment-là, puisque ça correspond en plus à la montée d'Hitler en Allemagne. Et alors, c'est à ce moment-là que l'auteur écrit les conséquences politiques de la paix.
Donc, justement, l'auteur Jacques Bainville, remis au goût du jour par Éric Zemmour et Michel Onfray, d'où il parle, et puis présentez-le nous un petit peu.
Alors Jacques Bainville, inconnu au bataillon, hein, y a que quasiment les historiens et certains journalistes dont Ben Aouda qui connaissent, sinon personne ne sait. Mais il est pas lu, pas tellement, mais il est historien, il est devenu la référence historique contemporaine de Chevènement Zemmour, mais en passant aussi par Michel Onfray. Pourquoi ? Parce que c'est un grand spécialiste des affaires allemandes au début du 20e. Donc il est journaliste également, il est académicien, attention, il est Action française au passage, donc royaliste, hein, donc proche de Maurras. Mais c'est un intellectuel, la droite donc, y compris l'extrême droite, le salue et considère que sa clairvoyance transcende le discours politique. Alors donc Éric Zemmour salue en lui ses visions prophétiques. En gros, ça se résume en Bainville avait raison, ce qui justifie les propres théories d'Éric Zemmour.
Et est-ce que Bainville avait raison ?
En fait, grâce à sa connaissance très fine de l'histoire croisée franco-allemande, Bainville prévoit dans cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui ce que les énormes réparations financières et territoriales exigées par le traité de Versailles de l'Allemagne vont déclencher. C'est-à-dire, l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale aura à cœur de fédérer toutes les terres de culture germanique en dehors de ses frontières. L'Autriche, la Tchécoslovaquie, les fameuses Sudètes, l'Alsace. Et la nouvelle République allemande va vouloir trouver sa voie entre un nationalisme romain et un socialisme moscovite, une sorte de national-socialiste. C'était prévisible, vu d'ici, vu de maintenant, mais en 1919, moins. Et Bainville le comprend et le prévoit. Il prévoit le Troisième Reich, en fait, Emmanuel, sans le nommer, évidemment. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, 1923, c'est l'année de la montée en puissance d'Hitler, au moment où l'Allemagne doit supporter cette énième humiliation de l'invasion de sa zone industrielle et de l'annexion de ses moyens de production. Et c'est ce qui pousse Éric Zemmour à se réclamer de Bainville. Le parallèle est envisageable. Bainville est opposant à la Troisième République, comme Zemmour est opposant à la Cinquième. Éric Zemmour hurle que la guerre avec l'ennemi fantasmé de l'intérieur est inévitable, alors les musulmans, les migrants, les homosexuels, comme Bainville, la Deuxième Guerre mondiale était inévitable selon lui. En plus, Bainville n'est pas sulfureux, il est acceptable. Donc, écoutez-moi, Bainville avait raison. Ça ne signifie pas qu'il a raison, mais en tout cas, c'est la façon dont on s'en sert aujourd'hui.
Merci beaucoup, Alexandra Paget. On retrouve maintenant, j'ai presque envie de dire, allez, notre historien du présent, tellement il écume le monde avec ses études approfondies, Ben Aouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Ben Aouda, bonjour.
Bonjour.
Ben Aouda, on commence par s'intéresser aux concentrations d'antibiotiques dans les eaux du Pacifique occidental et d'Asie du Sud-Est.
Alors, c'est un travail de recherche approfondi effectué par des universitaires suédois et indiens qui apporte de très importantes indications aussi bien aux autorités sanitaires qu'à l'industrie pharmaceutique. C'est une lecture, alors, il faut le dire, somme toute, assez compréhensible pour quelqu'un qui a un minimum de bagage scientifique. Il établit pour le Lancet Planetary Health combien les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées et les stations d'épuration posent de risques à de nombreux pays de l'Asie émergente. Ah ouais. Et qu'à ce titre, ça concerne le monde entier par la possible propagation d'agents pathogènes résistants. Nada Hanna et ses collègues identifient une pénétration de résidus d'antibiotiques dans les mers, les lacs, les cours d'eau, les fleuves, les nappes phréatiques à travers ce qui provient des municipalités, des hôpitaux et des usines de médicaments. Alors, ils établissent une identification de dizaines de différents soucis qui sont recensés par région. Et les cours présentés ne laissent aucun doute, en particulier chez les très grands consommateurs de traitements antibiotiques que représentent en volume l'Inde et la Chine. Ouais. Une attention bien plus accrue, nous dit-il, en la matière est censée être portée au réseau d'eau potable en connexion avec les stations d'épuration, ce qui requiert de retravailler l'ensemble de l'évaluation des risques de l'interaction entre les autorités locales, entre les régulateurs et les industries. Mais ça suppose aussi de repenser le recours extrêmement massif aux antibiotiques, en particulier ceux du spectre le plus large. Et cela ne concerne pas que les êtres humains. Ils sont de plus en plus utilisés à des fins thérapeutiques et non thérapeutiques dans les activités d'élevage, d'agriculture, d'aquaculture. Les listes d'observation particulières de l'Union européenne sont mises par ailleurs en exergue par les auteurs comme une forme de vigilance plus marquée et comme une sorte de chemin à suivre.
On part au Brésil ensuite, Ben Aouda, au moment où Lula revient au pouvoir. Un article qui souligne l'insoutenabilité de la politique économique au Brésil dans les années 2000.
Oui, dans un contexte d'extrême tension, ce retour au pouvoir de Lula et Luiz Inácio Lula da Silva, c'est un travail d'analyse économique où on se replonge dans la première période d'exercice du pouvoir par cette figure de la gauche latino-américaine et d'ailleurs de la figure de la gauche mondiale. Ouais. Un chercheur de l'Institut brésilien d'économie de Rio de Janeiro, le FGV, entend démontrer que la rechute qui a suivi son premier passage à la tête de l'État quelques années plus tard ne saurait être attribuée au seul choc exogène, au seul choc extérieur financier. Samuel Pessoa, qui reprend un à un les paramètres de croissance, d'inflation, de taux de change et d'emploi durant ces années 2000 si prometteuses. Et il estime à partir de là que les salaires dans son pays à cette époque ont augmenté bien au-dessus de la progression de la productivité du travail au Brésil. D'après son analyse, la hausse des prix des biens brésiliens non échangeables à l'échelle internationale était en principe compatible avec l'évolution des paramètres du paramètre essentiel qui est le taux de change du réal. Et entre 2005 et 2014, nous dit-il, c'est-à-dire aussi sous une partie du mandat de Dilma Rousseff qui a été la vice-présidente de Lula da Silva, les exportations sont passées d'un excédent de 4,3% du produit intérieur brut à un déficit de 3,7%. C'est un retournement extraordinaire, 8 points de produit intérieur brut, qui dit beaucoup, d'après l'auteur, du degré élevé d'artificialité de la politique économique de l'époque. La gestion d'un budget fédéral qui n'a pas été conforme à une nécessité de s'appuyer sur les belles années d'essor de l'activité économique. Samuel Pessoa écrit alors ceci: quand le temps des vaches grasses sont passées, nous n'étions pas préparés à affronter ceux des vaches maigres. Pour lui, le parti des travailleurs de retour aux manettes doit en tirer tous les enseignements et songer maintenant à rendre soutenable à long terme les perspectives d'une reprise économique pour espérer sortir enfin le pays du piège du revenu intermédiaire.
Ouais. Et on s'intéresse enfin, Ben Aouda, aux jeunes qui parient en Irlande.
Oui, c'est l'ESRI, l'Institut de Recherche Économique et Sociale de Dublin, qui vient de sortir des éléments très intéressants sur une explosion des paris en ligne au sein de la jeunesse irlandaise. Greta Mohan et son collègue ont compilé, analysé les données auprès de 4500 personnes. Ils ont été suivis entre leurs 17 ans et leurs 20 ans. En aussi peu de temps, on voit que cette activité de loisir a été multiplié par 4 et cela se révèle bien plus marqué auprès des hommes. À 20 ans, ils sont pratiquement 16% à jouer régulièrement à des jeux d'argent en ligne, avec les différents risques déjà clairement identifiés que cela induit. Une corrélation statistique très instructive, frappante, est établie ici avec la pratique d'un sport collectif. Ouais. Un jeune Irlandais qui joue par exemple au rugby ou au football est presque 3 fois plus susceptible de parier de la sorte que ceux qui pratiquent un sport individuel ou qui ne font tout simplement pas de sport. Les auteurs expliquent que les résultats de cette analyse empirique soutiennent l'idée d'effet d'entraînement en termes de comportement dans le sport collectif, pour ne pas dire un effet moutonnier, à une forme de norme sociale qui s'installerait par ce biais spécifique. L'équipe constitue, je cite, un forum approprié pour discuter de la sensibilité aux paris d'argent, donc, et cette étude.
Les paris de vestiaire.
Exactement, et il faut faire comme les autres. Et cette étude devrait être perçue, écrivent-ils, comme une preuve d'une nécessaire adaptation de la régulation dans le domaine des jeux de hasard, mais aussi de la pratique sportive chez ces amateurs qui sortent de l'adolescence. Ouais. Et il y a 2 textes législatifs qui sont en cours de débat. D'accord. En Irlande.
Ah ouais, passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Le temps des féminismes, un livre de Michel Perrault, la grande historienne des femmes et des féministes qui rend visible la part de la femme dans l'histoire, ce que malheureusement l'histoire écrite par les hommes pendant des années et des siècles n'a pas fait. C'est un témoignage sur sa vie d'historienne. Elle dit « Je suis historienne et féministe parce que l'histoire n'est pas au service d'une cause, que ce soit le féminisme ou une autre. » Elle nous dit « Il faut reconnaître que le féminisme est pluriel. Il n'y a pas un féminisme, il y en a plusieurs. » Elle met en avant à la fois les femmes qui ont pu être transgressives et qui se sont dit « On va se battre » et celles qui sont des juristes, qui font inscrire dans la loi le fait que les femmes ont autant de droits que les hommes. La fin est plutôt optimiste. Elle dit « J'ai l'impression qu'on rentre dans un monde où il y a une reconnaissance de la mixité, où il y a une parité sur le pouvoir des hommes et des femmes. Attention, il faut être vigilant. » Mais elle a l'impression qu'on va dans le bon sens. Tout le livre est un livre remarquable, passionnant, qui aide à réfléchir sur la place des hommes et des femmes dans la société. Une grande historienne des femmes qui nous livre un témoignage. Je trouvais ça vraiment remarquable.
Ah ben, vous nous faites envie, vous nous donnez envie de le lire. Christian, Jean-Marc Daniel, votre
alors
dernier
choix. Le repère, qui est un repère un peu traditionnel, qui paraît tous les ans sur absolument. L'économie de l'Afrique. Donc c'est l'économie africaine 2023, l'Agence française de développement étant le maître d'œuvre de l'opération. Et
quoi de neuf?
Alors quoi de neuf? Alors bon, au tout début, il y a une présentation de la situation économique de l'Afrique. Donc ça, c'est factuel, c'est professionnel. Il y a deux chapitres que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans ce repère. Celui sur les conséquences du changement climatique en Afrique et en particulier sur la montée des eaux. C'est-à-dire que ce qu'ils disent bien, c'est que Abidjan et Alexandrie sont directement menacé à relativement court terme si la tendance actuelle se maintient. Ensuite, ce sera Lagos. Mais il y a des villes qui sont à la fois des mastodontes, des métropoles gigantesques et avec un héritage historique incroyable comme Alexandrie qui pourrait comme ça être rayé de la carte. Donc c'est un cri d'alarme assez intéressant et assez bien argumenté. Et puis un autre cri d'alarme, c'est sur l'insécurité alimentaire. L'Afrique reste encore une zone de disette, voire de famine. Et apparemment, de ce que dit l'auteur de l'article, c'est que on ne voit pas d'amélioration à court terme. Donc là, il y a un vrai enjeu et donc si ça permet de prendre conscience des problèmes de l'Afrique, c'est un livre qu'il faut avoir à portée de main.
Merci messieurs pour ces choix très riches et passionnants. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.